RFI, 9h, à Paris, 8h en temps universel. Et le journal avec Marion Cazeneuve.
À la une, la libération. Il y a une heure de deux otages israéliens par le Hamas qui devraient en libérer un troisième. Aujourd'hui, en échange, Israël doit relâcher près de 200 détenus palestiniens. Il met l'une de ses promesses et même une de ses menaces à exécution. Le président américain impose des droits de douane à ses voisins, le Mexique et le Canada, mais également à la Chine. L'ONU déplore plus de 700 morts à Goma, dans l'est de la RDC, dans les combats entre l'armée congolaise et le M23. Et puis en Birmanie, 4 ans après le coup d'État, la junte militaire continue de perdre du terrain face à la révolution pro-démocratique. À Gaza, le Hamas libère deux otages, le franco-israélien Ofer Calderon et l'israélien Yarden Bibas. Ils sont arrivés en Israël il y a moins d'une heure. Un troisième otage israélo-américain doit être libéré aujourd'hui dans le cadre de la trêve entre Israël et le Hamas. En échange, Israël s'apprête à libérer près de 200 détenus palestiniens. Une trêve qui comprend aussi un cessez-le-feu à Gaza, effectif depuis près de deux semaines. Dans l'enclave, les besoins humanitaires restent immenses selon l'ONU. Son agence pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, tente tant bien que mal d'y poursuivre ses activités, malgré la fermeture jeudi de son bureau de Jérusalem imposée par le gouvernement israélien. La France doit agir et renforcer son soutien financier à l'UNRWA. Réagissent une soixantaine de députés français, essentiellement de gauche, qui ont envoyé un courrier en ce sens au président Emmanuel Macron. Pouria Amirshahi, député socialiste, est l'un des signataires.
La situation qui est actuellement celle que vivent les Palestiniens à Gaza, c'est-à-dire un cauchemar quotidien, mérite a fortiori parce que cessez-le-feu a été signé et qu'il faut que ce soit le point de départ d'une paix durable, une reconstruction digne de ce nom, et ça commence déjà par une aide alimentaire à la hauteur des besoins. Aujourd'hui, seul le programme alimentaire mondial, le PAM et l'UNRWA sont de facto les deux gros opérateurs qui permettent d'apporter les secours indispensables aux Palestiniens, et nous avons fait cette démarche en tant que parlementaires de tous bords, pas seulement de la gauche, il y a des députés du camp présidentiel, du MoDem également, qui l'ont signé. Et nous demandons au président de la République de tout faire pour que le droit international et les opérateurs, notamment l'UNRWA, puissent être considérés comme des opérateurs fiables qui sont pleinement légitimes à la reconstruction de Gaza.
Le député socialiste Pouria Amirshahi répondait aux questions de Romain Lemaresquier. Dans ce contexte, le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte devrait rouvrir aujourd'hui pour permettre l'évacuation de blessés. Israël avait décidé de le fermer il y a plusieurs mois. En revanche, il ne devrait pas être question d'acheminer de l'aide humanitaire via ce passage. Comme promis par le président américain, le Mexique et le Canada vont être soumis à des droits de douane. Les produits importés aux États-Unis seront taxés de 25%. Donald Trump devrait signer un décret en ce sens aujourd'hui. La Chine sera aussi concernée avec une taxe de 10% et les pays de l'Union européenne devraient bientôt être concernés. Mais ce premier coup porté par Trump pourrait se retourner contre lui car ces droits de douane pourraient plomber l'économie américaine, comme l'explique Pascal Delima, économiste chez Economixel.
Le problème, c'est que l'économie américaine dépend du Mexique et du Canada pour l'approvisionnement des matières premières et que par conséquent, ça renchérit le coût des matières premières pour les entreprises américaines. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'évidemment, une hausse des droits de douane renchérit aussi le coût pour les consommateurs américains des produits venus du Canada donc et du Mexique. Et le troisième aspect, c'est donc forcément des risques de représailles à la hauteur qui impactent aussi d'ailleurs les exportations américaines qui constituent 25% du PIB. C'est effectivement tout à fait négatif. On est en train de créer un système de plus en plus tendu qui peut jouer sur le PIB américain.
L'économiste Pascal Delima avec Pierre Olivier. Dans l'est de la RDC, au moins 700 personnes ont été tuées, 2800 blessées depuis dimanche lors des affrontements à Goma, affrontements entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par l'armée rwandaise. La situation a été abordée hier à Harare au Zimbabwe lors de la conférence de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Félix Tshisekedi, président congolais, était présent en visioconférence. La SADC lui a réaffirmé son soutien. Elle ne s'est pas prononcée toutefois sur l'avenir de sa force qui est déployée dans l'est de la RDC. Au Mozambique, des irrégularités observées par une mission de l'Union européenne. L'UE avait déployé des observateurs lors des élections générales du 9 octobre où la victoire de Daniel Chapo est toujours contestée. Le candidat de l'opposition, lui, revendique sa victoire à cette présidentielle. Correspondance régionale de Gaëlle Lalex.
Invalidation délibérée de vote de l'opposition, modification des résultats à la faveur du parti au pouvoir, bourrage d'urnes, listes électorales incomplètes, l'inventaire des irrégularités repérées par les observateurs de l'Union européenne est long. La mission dénonce un dépouillement sans transparence ni garantie suffisante pour assurer l'intégrité du comptage. Malgré ces conclusions accablantes, Laura Ballarin, à la tête de la mission, rappelle qu'il n'appartient pas à l'Union européenne de se prononcer sur la validité des résultats d'une élection. La mission fait néanmoins 18 recommandations afin d'améliorer le processus électoral mozambicain. Les observateurs dénoncent également la brutalité avec laquelle les forces de l'ordre ont réprimé la crise post-électorale. Selon la société civile mozambicaine, 315 personnes ont été tuées par la police en 3 mois. Pour sortir de la crise, Laura Ballarin préconise un dialogue véritablement inclusif, notamment avec l'opposant Venancio Mondlane. Lundi, le président Daniel Chapo s'est entretenu avec les dirigeants des 3 principaux partis d'opposition du pays. Le candidat malheureux à la présidentielle n'a pas été convié à cette réunion. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
RFI, 8h06, en temps universel. En Birmanie, il y a 4 ans, jour pour jour, un coup d'état militaire renversait le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Depuis, la junte a violemment réprimé les manifestations pro-démocratie. Plus de 6000 morts, 3,5 millions de déplacés et des combats qui se poursuivent entre l'armée birmane et des groupes rebelles, souvent issus de minorités ethniques. Hier, la junte a prolongé à nouveau l'état d'urgence pour 6 mois. Cette décision revient à reporter une nouvelle fois les élections pourtant promises. Et c'est surtout le signe que la junte est en difficulté face à l'avancée des groupes armés. La population civile, elle, se retrouve coincée entre ces affrontements. C'est ce qu'explique Johanna Chardonieras, experte en droit international et coordinatrice d'Info Birmanie.
La population birmane, peu importe où elle habite, vit dans la peur, dans les zones qui ne sont pas sous contrôle de la junte. Il y a des attaques aériennes quotidiennes désormais en Birmanie qui ciblent majoritairement la population dans le but de la terroriser et de couper son soutien à la révolution birmane. Dans les zones sous contrôle de la junte, il y a des checkpoints extrêmement réguliers avec une répression extrême. On a compté plus de 28 000 prisonniers politiques en Birmanie depuis le coup d'État. Et désormais, la junte a mis en place une conscription militaire forcée et kidnappe littéralement de jeunes birmans dans la rue pour les forcer à travailler pour l'armée. La junte est affaiblie sur le plan militaire. Elle a perdu plus de la moitié du pays. Elle a perdu des villes, des commandements régionaux, ce qui n'était jamais arrivé dans son histoire. Son recours massif à l'arme aérienne montre d'ailleurs sa perte de territoire. Elle a perdu aussi de nombreux hommes, d'où la conscription militaire forcée. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer les ressources dont la junte dispose, notamment économiques, et le soutien international qu'elle obtient notamment de la Chine et de la Russie.
Johanna Chardonieras, experte en droit international et coordinatrice d'Info Birmanie. Elle répondait aux questions d'Eike Schmidt. C'est un nouvel arrivant sur le marché de l'intelligence artificielle et il bouleverse déjà ses concurrents. Le chinois DeepSeek est l'une des IA les plus puissantes du marché qui coûte aussi beaucoup moins cher à développer que son concurrent ChatGPT. C'est simple, son dernier robot conversationnel a semé la panique dans la Silicon Valley et fait dévisser les valeurs de la tech à Wall Street. C'est désormais la protection des données personnelles des utilisateurs qui interrogent concernant DeepSeek, à tel point, Nicolas Feldman, que plusieurs pays, de la Corée du Sud à l'Irlande en passant par la France, réclament des explications à la start-up.
L'inquiétude de ces pays porte d'abord sur les données des utilisateurs collectées par DeepSeek. Âge, email, profil, historique des requêtes. Les régulateurs redoutent que toutes ces données, stockées en partie en Chine, puissent ensuite être partagées avec les autorités de Pékin. L'autre crainte, elle concerne la protection même de ces données. Cette semaine, une entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité a signalé une importante fuite. Des milliers de données d'utilisateurs de DeepSeek ont ainsi été accessibles en ligne avant que la start-up chinoise ne règle le problème. De la Corée du Sud à la France, en passant par l'Irlande, plusieurs régulateurs chargés de la protection des données personnelles demandent à l'entreprise chinoise de clarifier ses pratiques. En France, la CNIL, responsable de ces questions, dit mener une analyse de l'IA générative de DeepSeek et annonce vouloir interroger la start-up. L'Italie, elle, n'a pas attendu. Après avoir reçu des réponses jugées totalement insuffisantes, une enquête a été lancée. Rome interdit désormais à DeepSeek de traiter les données des utilisateurs italiens.
Nicolas Feldman. Enfin, en rugby, le 15 de France fait une bonne entrée dans le tournoi Destination avec une victoire hier soir très solide, autoritaire même au Stade de France contre le Pays de Galles. Score final 43-0. RFI 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel.